poète et paysan. Gustave Roux, poète et paysan. En tout cas, paysan au sens homme d'un pays. Et homme d'une haute solitude, comme on parle de haute montagne. Et qui habite cette solitude, qui habite ce pays avec toute l'ardeur et la douceur, les deux ensemble, tissés comme ça, tressés, noués ensemble, dans la langue qu'il écrit.
Pascal Paradou.
Poète et paysan, en deux mots, voilà le portrait de Gustave Roux fait par Marie-Hélène Lafon qui signe la préface de l'un des ouvrages du poète, Air de solitude. Mais là n'est pas le seul texte à découvrir de cet auteur car la maison d'édition Zoé vient de rééditer les œuvres complètes de Roux sous la direction de Claire Jacquier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite de littérature française à l'université de Neuchâtel, actuellement en duplex depuis Lausanne, et vous avez été la première à faire une thèse sur lui, Gustave Roux, envoûté, dites-vous, par son écriture.
Alors, moi, j'ai connu l'œuvre de Roux. En fait, je n'ai pas connu lui-même. J'aurais pu. J'avais à peu près 20 ans quand il est décédé en 1976. Mais je l'ai abordé par son œuvre. On en parlait à l'Université de Lausanne où je terminais mes études. Mais un peu du bout des lèvres. Il n'y avait aucun cours qui lui était consacré. Mais je l'ai lu. Et appartenant moi-même à un pays semblable à celui de Roux, assez proche, je me suis reconnue dans la manière qu'il avait de parler des lieux, de parler des espaces, de sa rencontre, de son échange avec les lieux, dans une langue qui est, oui, envoûtante. Je ne suis pas la première à utiliser ce terme. C'est une langue douce, harmonieuse, fluide, qui n'aime pas le heurt, qui n'aime pas le choc des mots. Et cette langue, pour moi, s'accordait à l'expérience que j'avais du paysage. Bon, j'avais 20 ans à l'époque, mais je me promenais comme Gustave Roux, comme Marie-Hélène Lafon aussi, dans son propre pays. Et cette œuvre m'a conquise d'emblée.
Alors aujourd'hui, vous dirigez les œuvres complètes de Roux, donc vous nous permettez de découvrir cet auteur. Est-ce que je dois vous dire que je n'en avais jamais entendu parler avant ?
Eh bien, quel aveu ! Mais ça ne m'étonne pas. Moi, j'ai fait une expérience semblable. Je connais Roux, qui est né dans le canton de Vaud. Je suis moi-même vaudoise et j'ai enseigné dans le canton voisin, c'est-à-dire le canton de Neuchâtel, donc à, je ne sais pas, 20 ou 30 kilomètres en termes de frontières. Et mes étudiants, tout comme vous, n'avaient jamais entendu parler de Roux.
Mais alors, pourquoi ?
Alors pourquoi ? Oui, c'est une œuvre qui est restée dans des cercles de lecteurs relativement confinés mais fervents. Alors même que dans les 10 dernières années de sa vie, dans les années 60, au début des années 70, il était en Suisse romande, dans les milieux littéraires, perçu comme l'autorité en termes de poésie et de littérature. Il avait, à la mort de Ramu en 1947, pris le relais, je dirais, de cette position d'autorité. Il ne l'a pas prise lui-même, je dirais, on le lui a imposé. Et il a véritablement été un pôle symbolique des milieux littéraires en Suisse romande très fort. Mais c'est vrai que la diffusion de son œuvre s'est faite lentement, peut-être pour une raison qui tenait justement à cette position de prestige qu'il avait, que lui ont assigné des poètes qui étaient proches de lui, notamment Philippe Jacotet, bon, passablement plus jeune que lui, Jacques Chessé également, qui le considéraient comme un poète absolu. En quelque sorte, est auteur d'une œuvre rare, dense, peut-être difficile, qu'il n'était peut-être pas nécessaire de diffuser dans des cercles larges. Ensuite, ça s'est fait. Et précisément grâce à Jacotet, qui a fait le travail à partir des années 60, fin des années 60, de transmission de l'œuvre en France. Mais ça a pris du temps.
Alors, il faut dire quelques mots sur Roux, puisqu'il est assez méconnu. Il est né à l'extrême fin du 19e siècle. Il va faire la guerre 14-18. Sinon, il restera quand même très rivé à son pays, à son paysage. C'est un homme dont on dit qu'il a quasiment vécu tout le temps dans la ferme familiale.
Oui, alors vécu, oui, son domicile, oui, mais c'est un homme de la randonnée, c'est un promeneur. Il vit dans le besoin de fuir, de fuguer, alors certainement pas très loin, bien que précisément pendant la Première Guerre, il a appris à marcher, à faire de longues marches diurnes et nocturnes, des 40 km par jour, n'est-ce pas? Et il conçoit la promenade comme le ferment ou le terreau de ce qui va devenir sa poésie. Il a par ailleurs fait quelques voyages à Paris, au sud de la France, en Italie. Il s'est initié à la peinture, notamment. Et au début des années 50, il est allé à Salzbourg et à Innsbruck sur les traces d'un poète allemand, enfin autrichien qu'il traduisait, qui est Georg Trakl. Donc, je dirais, il s'est déplacé peu, mais en fonction de ses affinités littéraires.
Mais son paysage, son univers, c'est quand même la ferme familiale, son paysage d'enfance.
Alors, pour être précise, il vit jusqu'à l'âge de 11 ans à Saint-Légier, qui est un village au-dessus de Vevey, donc tourné en quelque sorte du côté du lac Léman. Et sa famille déménage en 1908 pour en effet s'installer dans une ferme à Carouge, qui est cette fois dans le Jora, ou ce que lui appelle le Haut-Jora vaudois, où ses parents exploitent un domaine qui appartient à la famille de la mère. Et dans cette ferme, il vit son enfance à partir de 11 ans, sa jeunesse et toute sa vie, d'abord avec ses parents et sa sœur Madeleine, avec des tantes qui progressivement disparaissent et décèdent. Et il se retrouve seul à vivre d'abord avec Madeleine jusqu'en 1971 et ensuite avec une gouvernante qui s'appelle Françoise Subilia. Mais Roux n'a pas vécu une vie de solitaire. Il a vécu une vie d'homme de lettres, très actif dans le milieu littéraire roman, en correspondance et en échange constant avec des rédacteurs de revues, avec des rédacteurs de journaux, de périodiques, d'illustrés, avec des confrères, des poètes, des écrivains, des peintres également. Donc c'est un homme de contact, d'échange et nous dirions aujourd'hui de réseau.
C'est un homme en tout cas qui écrit très tôt et beaucoup. Les œuvres complètes, c'est combien? 5000 pages?
Alors, c'est 5000 pages en effet, et c'est peut-être un peu surprenant pour les premiers amateurs de Roux, les premiers lecteurs, ceux qui l'ont connu et qui ont connu la première édition des œuvres complètes de Roux, qui est posthume et qui paraît en 1978 à la Bibliothèque des Arts. Et ce sont trois petits volumes qui ne donnent que la poésie, que les recueils de poésie, une dizaine de recueils, et qui a été établi par Philippe Jacotet, qui était son exécuteur testamentaire. Donc cette première œuvre, je dirais, donne le ton. C'est l'œuvre d'un poète, une espèce de poète pur, qui a peu écrit. Mais si on le connaît bien, il a en fait énormément écrit. Et en effet, notre édition critique, alors n'est pas une surprise dans la mesure où entre 1978 et aujourd'hui, diverses rééditions ont vu le jour, des écrits critiques ont paru, son journal a paru à deux reprises, ses traductions ont été rééditées également et un grand nombre d'échanges de correspondances également. Donc, je dirais, l'œuvre s'est construite au gré de ses éditions, mais de manière disséminée, et il nous est apparu qu'une réunion de l'ensemble de l'œuvre était importante. D'autant plus que les archives, les documents, les manuscrits, les brouillons, au fond, sont disponibles. Il y a un fonds d'archives extrêmement riche qui se trouve à l'Université de Lausanne, mais avec des documents qui se trouvent ailleurs en Suisse, à l'Université de Berne, aux archives littéraires suisses, etc.
Avant de parcourir cette œuvre, Claire Jacquier, on va abandonner quand même la Suisse pendant quelques minutes et le Haut-Jora pour le sud de la France avec un tout jeune chanteur, Max Caz, dans Arles.
Dans Arles, au bord des monuments, dans Arles, j'ai coupé quelques branches d'un mimosa qui poussait gaiement. Dans Arles, où sont les aliscans, un mimosa dans la pierre blanche. Dans Arles, quand ton cœur bat sans cause, quand ton cœur est encore au printemps, prends garde à la douceur des choses, quand l'ombre est rouge sous les roses, quand t'éclaires. J'avais juste 20 ans, c'était avant qu'il pleuve en trombe. Dans Arles, où sont les aliscans? Dans Arles, Je cherchais peut-être l'inspiration. Dans Arles, j'ai pris mon impulsion et j'ai sauté, sauté dans le fleuve. Le Rhône faisait comme un miroir, le Rhône comme un arc dans la nuit m'a jeté jusqu'au delta du soir. Le Rhône coulait dans la nuit noire, je rêvais d'astronomie. Dans Arles, quand ton cœur bat sans cause, quand ton cœur est encore au printemps, prends garde à la douceur des choses. Quand l'ombre est rouge sous les roses, quand t'éclaire le temps. Dans Arles, j'avais juste 20 ans, c'était avant. Dans le fleuve.
Max Caz sur RFI dans De Vive Voix, émission aujourd'hui consacrée au printemps des poètes et à l'œuvre de Gustave Roux, 1897-1976, dont les œuvres complètes sont rééditées grâce à Claire Jacquier qui est avec nous en duplex de Lausanne. De quelle nature sont les textes de Gustave Roux ?
Alors, commençons par la poésie, puisqu'il est connu comme poète. Il a commencé par écrire des vers, très jeune, et il a très rapidement abandonné les vers. Il en a publié quelques-uns dans des revues. Ensuite, il passe à une sorte de prose poétique, qui sont des textes qui peuvent être soit des petites notes de quelques lignes, soit des textes un peu plus longs, qui ressemblent quelquefois à des récits, mais qui restent de la prose poétique. Donc, c'est pas un genre, c'est difficile de qualifier en termes de genre, mais c'est une voix poétique fortement associée à la continuité de la prose.
Et puis il y a le journal qui dit ses marches, la route, ma seule patrie, écrit-il, ses rêves, ses tourments, je suis fait d'absence et de présence. Il dit ça à propos de la mort de sa mère. C'est important le journal pour comprendre l'œuvre.
Oui, tout à fait. Bon, il faudrait tout lire en même temps, d'une certaine manière. Je crois qu'il n'y a pas de... Nous avons notre édition, vous l'avez vu, que j'ai donc préparée avec mon collègue de Lausanne, Daniel Maggetti, est composée de 4 volumes, parce qu'il fallait bien distinguer, en quelque sorte, dans ces 5000 pages, faire des scansions. Donc la poésie, la traduction, le journal, la critique. Mais le processus créateur de Roux est fluide. Quand il traduit, il est poète tout aussi bien. Quand il écrit son journal, c'est très souvent un point de départ d'un texte qui va paraître dans un recueil ultérieurement. Mais le journal, en effet, est très particulier chez Roux. Difficile même de donner ce nom de journal, tant au départ, ce sont des réflexions sur une œuvre à venir. Alors, on lui a donné ce nom parce que le journal est daté, donc il y a cette marque minimale de journal, mais il évolue extraordinairement. Il est consigné sur des supports qui vont vraiment du dos d'une enveloppe à des cahiers d'écoliers bien tenus, voire recopiés. Et il va avoir, au fil des années, des fonctions extrêmement diverses. Mais il accompagne l'œuvre de manière constante.
De la poésie de Gustave Roux, un extrait de poème lu par Jean Negroni, enregistrement de 2002.
Sommeil d'aimer, la fête s'est dénouée comme une gerbe. Oh Louis, ne partons pas encore, c'est si triste. Ivre de danse et de vin froid, ce peuple de moissonneurs qu'abandonne brusquement la joie, il perd pied. Chacun retombe en tâtonnant hors de soi-même. L'un trébuche dans un champ sans issue. L'autre renverse un verre amer. Sur un cri de clarinette, la dernière polka se rompt. Louis, que de fois rêver cette fête qui va mourir avec la nuit, rappelle-toi. Par les champs mordus de faux silencieuses, qui de nous, arrachant à l'ombre la cruche de cidre, les bras brûlés, qui de nous n'a vu ces longues tables d'aujourd'hui sous les feuillages ? Ne partons pas encore. Peut-être que les musiciens seulement se reposent. Et là-bas, le carrousel tourne encore avec ses gondoles, ses lions et ses cygnes. Louis, Mais Louis, qui sait qu'on ne ranime pas une fête moribonde, sourit, se lève, s'en va.
Les moissonneurs, une fête, le sentiment d'un récit, une écriture poétique. Est-ce que ce poème est caractéristique de l'œuvre de Gustave Roux, Claire Jacquier ?
Oui, tout à fait. On y retrouve l'adresse à un homme, ici nommé Aimé. Alors, il y a plusieurs Aimés dans l'œuvre de Roux que dans notre édition critique, nous pouvons identifier assez clairement, puisque Roux a vécu successivement des passions amoureuses qui n'étaient pas déclarées, qui n'étaient pas réciproques, pour des paysans de son pays. Le premier aimé étant un paysan tout proche de son propre village, qui s'appelle Olivier Cherpillot. Mais ensuite, d'autres vont suivre, et ce nom d'aimé va essaimer, en quelque sorte, dans l'œuvre, et les pôles amoureux qui correspondent à des pôles géographiques, parce que Roux se rend dans les villages ou quelquefois simplement dans les champs que cultivent ces paysans pour les prendre en photo, pour les rencontrer, pour parler avec eux, pour les regarder. Et donc la présence de ces personnes, de ces corps désirés est une des caractéristiques de l'œuvre poétique de Roux.
Oui, parce que Roux a beaucoup écrit, mais il a fait aussi beaucoup de photographies en noir et blanc. Je crois qu'il y a 16 000 clichés qui sont essentiellement des images de paysages et puis de ces hommes qui travaillent la terre avec des corps musclés qui pourraient être un peu fascisants comme le sont les images de Riefenstahl hein, sous le Troisième Reich, mais là c'est plutôt un regard érotique et sublimant les corps.
Oui, mais la référence à des images qui héroïsent le corps masculin, qui le statufie en quelque sorte, dans une esthétique qui est proche de celle du Troisième Reich, n'est pas fausse, elle a été faite. Alors, il y a des photos noir-blanc essentiellement, il y a beaucoup de photos couleurs aussi à partir des années 60. Alors, la particularité de ce fonds photographique, en effet, plus de 10 000 pièces hein, qui nous sont parvenues, c'est que Roux n'en a ne l'a pas organisé, n'a jamais fait d'exposition. Il a livré des photographies noir-blanc à des journaux, à des magazines illustrés pour accompagner certains de ses textes, mais il n'en a rien fait, il n'en a pas dit grand-chose, voire presque rien, parce que pour lui, la photographie, en cela, encouragé, j'ai envie de dire, par son éditeur Henri-Louis Mermoux et ensuite par d'autres personnes, notamment un peintre, Aubert Genois, Philippe Jacotet également, a été encouragé à, en quelque sorte, hiérarchiser sa production et à mettre la poésie au-dessus de la photographie. On ne sait pas exactement si Roux avait été encouragé dans l'autre sens, s'il n'aurait pas, au fond, davantage travaillé la photographie et la faisant dialoguer avec ses textes, voire en initiant des expositions.
Alors, vous disiez, Claire Jacquier, que Roux était très proche de nombreux poètes, de nombreux artistes suisses, dont Philippe Jacotet, qui est donc lui aussi un grand poète, devenu son exécuteur testamentaire. Et voilà ce qu'il disait l'année de sa mort en 1976.
C'était en effet une figure discrète et si discrète qu'il n'osait jamais demander à un de ses éditeurs de rééditer ses livres quand ils étaient épuisés, de sorte qu'il est maintenant assez difficile de trouver en particulier ses œuvres anciennes. Et maintenant qu'il est mort, nous n'avons pas à avoir la même discrétion que lui. Nous pourrons rééditer le plus rapidement possible et les diffuser un peu mieux qu'elles ne l'étaient. Mais il faut dire en même temps que c'était de ces écrivains discrets qui se font tout de même peu à peu leur cercle de lecteurs, beaucoup plus loin qu'on ne l'imagine. C'est le genre d'œuvre qui crée une espèce de ferveur autour d'elle et d'admiration, d'attachement réel. Enfin, tous ceux qui le lisent, ils l'ont vraiment lu, ils n'ont pas lu simplement comme ça pour le nom.
Et comment la caractériser, cette œuvre ? D'abord la solitude.
Oui, c'est quelqu'un qui a toujours recité une phrase de Novalis par qui il avait été influencé, enfin dont il était très proche, comme la clé même de son œuvre, je crois qu'il faut la reciter parce que c'est vraiment le centre. Novalis disait « Le paradis est dispersé sur toute la terre, il faut réunir ses traits épars ». Et au fond, c'est exactement la tâche qu'il s'est assignée dans sa campagne, dont il n'est jamais parti, dans une grande dignité de vie, parce qu'au fond, il avait une vie difficile matériellement, sans en bouger jamais, attentif à ces espèces de signes qu'il pensait voir dans la campagne et dans le monde pour les rassembler, pour en faire au moins un paradis de paroles, si le paradis réel n'était pas accessible vraiment ici.
Claire Jacquier, comment raconter ce paradis dont parle Jacotet, qui est d'ailleurs le titre d'un ouvrage de Gustave Roux, « Essai pour un paradis ».
Oui, en effet, c'est une œuvre de 1933. C'est la troisième ou quatrième recueil publié. Roux, en effet, écrivant ce livre, pense très explicitement à la phrase que Jacotet a citée, hein, la phrase de Novalis, il s'agit de réunir les très épars du paradis. C'est un texte étonnant, et là, notre édition vraiment permet de voir dans quelles conditions elle a été créée. Et peut-être rapidement, au centre d'Essai pour un paradis, il y a une partie qui s'intitule « Année ». Et dans « Année », Roux reprend les notes du journal de l'année 1932, il les réorganise, il enlève les dates, il transforme le nom d'Olivier, donc Olivier Cherpillon, en Aimé, sinon il ne fait que peu de modifications. Et en effet, « Année », c'est une saison en paradis pour Roux, parce que le poète a pu côtoyer Olivier dans ses travaux, enfin aimer dans ses travaux, le voir, être proche de lui, développer à son égard une amitié, le mot amour se trouve même dans le texte, sans qu'il soit déclaré évidemment, et c'est ça ce paradis, c'est voir, regarder un homme qui, pour lui, est un innocent. Et que veut-il dire par un innocent? C'est-à-dire qu'il accepte complètement, sans réserve, sa condition paysanne, son travail, la dureté de son travail, son ancrage dans une terre. Oui, c'est l'acceptation totale et entière et joyeuse d'une condition humaine qu'on n'a pas cherchée, mais qui nous a été donnée.
Donc c'est un paradis païen et un paradis de l'instant, de la jouissance, oui, de l'instant.
Voilà, c'est un paradis parfaitement immanent. C'est un paradis où Roux, au fond, participe, mais il sait que c'est provisoire parce qu'il va quitter Aimé à la fin de la saison. Parce qu'à la fin de la saison, le paysan, au fond, n'est plus dans les champs, il ne peut pas le voir régulièrement comme c'est le cas pendant l'été. Donc, il vit à travers Aimé, presque par procuration, cette vie sous le ciel, sur une terre travaillée comme un jardin, souvent avec un J majuscule, donc le jardin d'Éden en quelque sorte, dans une paysannerie encore traditionnelle, avec des chevaux, pas de tracteur, un rapport aux outils extrêmement sensuel que Roux voit, que Roux sent, et une sensorialité du lieu, du rapport aux saisons, qui est pour lui le paradis.
Gustave Roux, Philippe Jacotet, il y a un peu un effet miroir entre les deux, et dans l'un des rares entretiens qu'il a accordé, Roux parle d'ailleurs de Jacotet.
Ce qui me semble le plus proche, ce qui me le passionne le plus, ce qui m'émeut le plus, je dirais surtout, c'est sa poétique qui s'est esquissée, qui s'est précisée peu à peu, et dans laquelle je retrouve, avec, je n'ose pas appeler la mienne, enfin disons mes essais, celle qui guide mes essais, une parenté certaine. C'est-à-dire que toutes les deux prennent la forme d'une quête des signes. Et ce que je trouve si émouvant dans cette quête de Philippe Jacotet, c'est cette extraordinaire loyauté qu'il y met. Enfin, sa sensibilité est extrême. Tout le monde extérieur, le touche d'une façon toujours profonde.
Hommage respectif de deux poètes avec ce mot-clé, la quête des signes. Claire Jacquier, c'est le point commun, c'est-à-dire l'observation de la nature dans sa plus grande précision pour essayer d'y trouver le paradis.
Oui, alors la quête des signes, c'est un mot de Roux. Hein. Je ne sais pas si on le trouverait dans l'œuvre, oui, de Jacotet, mais c'est vrai qu'elle convient. Elle convient au poète de Grignan également. Mais en effet, c'est la quête de signes, de détails qui pourraient donner le sentiment que le monde immanent, le monde perçu par les sens, peut avoir une résonance éternelle.
Mais il y a du mysticisme chez Roux.
Oui, mais c'est un mysticisme contrarié, j'ai envie de dire. Parce que quelquefois, Roux dit explicitement « ce sont les signes d'un ailleurs que je cherche ». Et quelquefois, il dit au fond « l'ailleurs est ici-bas ». Et c'est ici-bas que nous trouvons la réalité d'un ailleurs. Il faut savoir regarder, être attentif, percevoir en quelque sorte des dimensions subtiles, en effet peut-être mystiques, mais dans une immanence.
Alors vous parliez de sensualité, de sensorialité. Il y a aussi une dimension très très picturale dans l'écriture de Roux. Le soleil se couche dans une lumière de craie et c'est Marie-Hélène Lafont qui souligne que Roux n'a jamais peur de la couleur. Il parle par exemple du bûcheron bleu.
Oui, oui. Oui, oui. Là, il a été à l'école de Ramu aussi, qui avait un œil de poète d'une acuité extraordinaire, qui utilisait les adjectifs de couleur aussi de manière intense. Et Roux, et beaucoup de prose de Roux sont des tableaux. Non, véritablement des tableaux, souvent des très courts textes où compose une image, un paysage avec des couleurs, des formes, des mouvements de nuages, un rapport entre le ciel et la terre, hein, ça c'est très juste, conjonction du ciel et de la terre sont très souvent présentes dans ces textes.
Alors, je vous ai bien écouté, Claire Jacquier, vous disiez qu'il fallait tout lire en même temps, c'est-à-dire les 5000 pages, mais en même temps, vous dites que ce sont des très courts textes. Par où commencer pour quelqu'un qui n'a jamais lu Gustave Roux ?
Ah, je dirais la poésie quand même. Mais alors, notre édition permet ceci peut-être de commode, c'est qu'elle comporte plusieurs tables des matières, des listes de textes par ordre alphabétique, et la table des matières permet bien de voir que Roux a publié des recueils, hein, lui-même, avant sa mort, une dizaine, hein, pas beaucoup, et vu que notre table des matières est chronologique, entre ces recueils apparaissent des petits textes qu'il a publiés dans des revues, et qui avait donc complètement disparu du paysage, puisque ces revues n'étaient qu'en bibliothèque. Donc peut-être c'est utile de commencer par ces petits textes, en fonction peut-être de certains titres qui peuvent être attirants, comme « Rameau de lierre » ou « Le chant des fléaux » ou « Un nom de lieu », etc. Commencer par ces petits textes qui sont quelquefois un peu plus circonstanciels que ce que la poésie des recueils livre, et puis ensuite, de proche en proche, entrer dans un recueil en particulier, pourquoi pas Essai pour un paradis, bien que ce soit peut-être pas le plus facile, ou Ère de la solitude, et faire l'expérience de ces recueils très composés, hein, très concertés, que Roux met en place souvent assez lentement en reprenant des matériaux anciens et en les composant, hein, de manière très, très, très serrée, très, très dense.
50 ans après sa mort, Gustave Roux est toujours une autorité, ou plus que jamais une autorité en Suisse et dans la poésie francophone.
Oui, il a conquis surtout une audience internationale. Ça, c'est évident. Il a été traduit en allemand d'abord, c'est normal, en Suisse, en italien, en espagnol, en anglais, il y a un ou deux ans, je crois. Et en effet, il y a des témoignages, des comptes rendus de l'œuvre qui montrent que cette œuvre s'est internationalisée. Ça, c'est tout à fait clair. Il touche aussi un public et, je dirais, des intérêts contemporains qu'il ne touchait pas à sa mort, en particulier, je dirais, l'échange avec le monde, avec la nature, la pratique du voyage lent, hein, du voyage à pied, de la marche à pied, correspond à des intérêts actuels. Beaucoup d'écrivains contemporains, français, francophones, font des traversées de la France, d'autres pays, à pied, dans le voyage lent, et considèrent que Roux est un maître en cela.
Merci Claire Jacquier. Les œuvres complètes de Gustave Roux sont publiées donc chez Zoé, maison d'édition suisse, qui a aussi la bonne idée de publier deux textes séparés en version poche, Ère de la solitude et Essai pour un paradis. Merci beaucoup. Merci aussi à la radio-télévision suisse qui nous a permis d'établir ce duplex, et à Isabelle Barthes de Vive Voix, Pascal Paradou, programmation Audrey Taïeb, Guillaume Ploquin à la réalisation. Vous aurez noté aujourd'hui l'absence de la puce à l'oreille, notre chronique hebdo en raison de l'appel à la grève nationale contre la réforme des retraites. De Vive Voix, émission à réécouter sur RFI.fr et sur les réseaux sociaux.